un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce sont des meurtres qui ont lieu à Valence, à Montpellier, à Besançon, à Nantes, à Courrières dans le Pas-de-Calais, à Villerupt en Meurthe-et-Moselle ou à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Mais en réalité, il ne faut pas les considérer comme des conflits locaux. Ce sont des règlements de compte qui peuvent démarrer par une embrouille en Thaïlande ou en Espagne, quand ce n'est pas dans une boîte de nuit à Paris. Des guerres de territoire, mais des victimes bien locales, elles, de plus en plus jeunes et de moins en moins importantes dans les réseaux. On ne bute plus simplement le chef, on punit à tous les échelons du trafic de drogue, de manière brutale, expéditive, atroce. Selon les informations obtenues par le quotidien Le Monde, au 1er janvier 2023, on pouvait compter que 60% environ des victimes de règlements de compte liées au trafic de stupéfiants étaient âgées de moins de 25 ans. Plusieurs centaines de morts par an qui tombent dans une catégorie statistique spécialement créée par la police est nommée « homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire entre délinquants ». Amine Kessassi, lui, a voulu donner une voix à ces chiffres et aux familles de victimes. On l'écoute tout de suite au micro de Clément Baudet.
Je m'appelle Amine Kessassi, j'ai 19 ans et j'ai passé toute mon enfance à Frévalons, c'est un quartier du 13e arrondissement de Marseille. Et actuellement, j'habite dans le 15e arrondissement. Frévalons, c'est une cité particulière parce que Frévalons, c'est la plus grande cité de Marseille où on est un peu plus de 8000 habitants. Une cité qui s'est faite il y a un moment quand il fallait accueillir les premières vagues de l'immigration. C'est une cité qui connaît tous les problèmes des autres cités, manque de services publics. En l'occurrence, transport, on a ça, mais le bureau de poste, il a fallu se battre pour qu'il reste ouvert. Les commerces de proximité, ils s'en vont un à un. Quand j'étais petit, c'était différent parce qu'il y avait plus d'actions que ce qu'il y avait aujourd'hui. Il y avait un centre aéré. Moi, j'ai été dans ce centre aéré. On y faisait des activités, on y faisait des sorties. La première fois que je suis sorti étant plus petit, c'était aux Alpes. On y est allé pour une semaine. Et moi, je me souviens de ce poste de police qu'on avait dans le quartier, qui aujourd'hui n'existe plus, mais il y avait un commissariat, il y a des escaliers bleus quelque part dans Frévalons, dans un bâtiment, au bâtiment N. Et sur le rez-de-chaussée, il y avait des locaux qui appartenaient à la police. Et donc, il y avait ce qu'on appelait des grands frères. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est vraiment les souvenirs que j'ai de Frévalons, les animations, la vie de quartier qu'il y avait et qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et Frévalons, c'est un quartier qui est spécial parce que c'est le seul quartier à Marseille où il y a un métro dans la cité. Il y a le métro Frévalons. Et ça, c'est important parce que grâce à ça, j'ai pu faire mon école ailleurs. J'ai jamais été à l'école dans mon quartier. Mes parents ont très vite compris que si on voulait avoir une perspective d'avenir, si on voulait voir autre chose, si on voulait comprendre la vie autrement, qu'il fallait pas aller dans le quartier parce que dès qu'on sort de l'école juste en face, il y a le point de deal. Dès qu'on lève la tête, on voit que nos bâtiments. Les quatre plus grands de la famille ont été inscrits à l'école dans le quartier. Ils y sont allés. Pour certains, ça s'est très bien passé. Pour un de mes frères, un peu moins. Il a été déscolarisé très tôt et il voulait plus aller à l'école. Et donc, dès que nous, il fallait nous inscrire à l'école, ma mère avait obtenu un contrat à CARSAT, à la caisse des retraites, près de la Timone. Elle a vu qu'il y avait une école pas très loin et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous inscrire dans cette école-là. Donc, elle allait travailler le matin, elle nous déposait à l'école là-bas et elle revenait nous chercher. Ma mère est femme de ménage, elle est agent d'entretien, elle bossait à CARSAT et maintenant elle est auto-entrepreneur, elle a sa boîte. Et mon père est mécanicien, il travaille dans l'automobile. Je suis l'avant-dernier d'une grande fratrie. On est six, nous, à la maison. Quatre garçons et deux filles. Avec une éducation qui a été très, très, rigoureuse, militaire. Et ça se voit avec ma grande sœur qui aujourd'hui est caporale dans l'armée. Mon grand frère aussi qui a eu une formation policière aussi. J'avais environ 12-13 ans quand j'ai compris que mon grand frère Brahim était impliqué dans ce qu'on appelle les trafics de stupes. Moi, j'étais très très jeune, donc c'est pas mes souvenirs à moi, mais de ce que ma mère nous a raconté, elle descendait un jour du bâtiment, elle a trouvé assis sur une chaise une fois, deux fois, trois fois, et puis elle a très vite compris. Je me souviens aussi qu'une fois, ma mère avait appelé la police en disant « mon fils est au pied de l'immeuble en train de vendre de la drogue, venez vous en occuper ». Quoi. C'est quelque chose qui arrive à un moment, quoi. À un moment, on s'est rendu compte qu'il était dans la drogue et tout le monde le savait. Mais enfin, je veux dire, on n'en parlait pas, quoi. C'était pas un truc qu'on se chuchotait entre nous. Il n'y avait rien à dire, rien à faire. Enfin, à ce moment-là, quand on l'apprend, je ne savais pas forcément ce que c'était les trafics de drogue, je ne savais pas forcément ce que c'était les règlements de compte, même si j'en entendais parler, mais je ne savais pas forcément ce que c'était. Donc non, à ce moment-là, je ne m'inquiétais pas. Enfin, c'était mon grand frère, quoi. C'est lui qui m'a appris à me défendre et ce n'est pas au petit frère d'avoir peur pour le grand. On avait 4 ans d'écart. Il y avait pas beaucoup de différence entre nous, donc on était assez proches. On était très différents. Moi, j'étais plutôt littéraire, j'étais plutôt posé. Lui, il était plutôt dans on sort, on va découvrir, on va bouger, on va voyager, on va faire des choses. Et mon frère, il m'a tout le temps était à l'écoute, tout le temps était un peu mon confident. Je me suis beaucoup confié à lui. Je me suis beaucoup, malgré le fait qu'il ait très tôt abandonné l'école, malgré le fait qu'il ait tombé très tôt dans les trafics de stup. Et puis moi, je m'occupais beaucoup de ses papiers. Je l'aidais à faire des démarches administratives. Il a eu une fille qui aujourd'hui a 4 ans, et donc je l'ai beaucoup aidé dans ce sens-là aussi à faire les papiers pour sa fille, etc. J'avais 16 ans et lui, il avait 20 ans. Et donc il m'a tout le temps dit si tu veux pas finir comme moi, faut que tu ailles travailler, faut que tu ailles à l'école, faut que si, faut que ça. Enfin, il avait vraiment cette conscience de grand frère. Moi, quand il venait me chercher, il venait tout le temps avec un cadeau, avec quelque chose. Il venait tout le temps avec un jouet ou avec un goûter. Enfin, il avait vraiment ce rôle de grand frère. Il m'a appris à me défendre, il m'a appris à me battre. Enfin, je veux dire, il a tout le temps été là pour moi. Il a tout le temps, il a vraiment essayé d'être là dans la mesure du possible. Il nous a tout le temps protégés. Il a jamais voulu nous parler de ce qu'il faisait, même si nous on s'en doutait et à un moment on l'a découvert. Mais il a tout le temps voulu nous protéger, voulu nous tenir à l'écart. Et puis à un moment, on a appris qu'il a commencé à avoir des ennuis parce qu'il a été menacé une première fois, une deuxième fois. Et il a reçu 9 balles. De ces 9 balles, il s'en est sorti. Il a eu plusieurs opérations, plusieurs greffes, etc. Et depuis qu'il a eu sa fille, il voulait justement tout arrêter. Je pense que c'est là que ses ennuis ont commencé, au moment où il voulait sortir un peu de tout ça et prendre de la distance. Il voulait vraiment construire une vie pour sa fille. Il a eu un appartement. Il essayait de bosser. Moi, je l'ai envoyé dans plusieurs boîtes d'intérim. Et donc, c'est là où il a commencé à arrêter d'aller dans le quartier, à arrêter d'aller au réseau. Et c'est là que ses ennuis ont commencé.
Deux corps calcinés ont été découverts ce matin dans une voiture incendiée. Le véhicule était abandonné sur une bretelle de service de l'autoroute à 55 sur la commune des Pennes-Mirabeau près de Marseille. Le mode opératoire laisse penser à un règlement de compte. Les victimes n'ont pas pu être identifiées. Il faut attendre les résultats de l'autopsie qui permettra aussi de déterminer les causes de la mort.
Le 29 décembre 2020. J'ai eu un coup de fil de ma mère qui me disait « Reda a été assassiné, Reda c'est l'ami de mon frère ». Et moi j'ai tout de suite fait le lien parce que la veille, j'étais le dernier à les avoir vus, ils étaient passés à la maison la veille et j'étais le seul qui était à la maison. Et donc du coup, j'ai tout de suite rejoint ma mère, je suis arrivé à la maison, c'était un peu la pagaille, tout le monde pleurait, tout le monde criait. Et donc j'ai pris contact avec la police, avec l'évêché, donc ils nous ont dit « on n'est pas au courant pour le moment, mais rappelez-nous plus tard ». Et on a rappelé le lendemain en expliquant que je pensais que mon frère était décédé. Donc ils nous ont dit « un policier va prendre attache avec vous ». Donc quelques jours plus tard, un policier nous a contactés. Nous, notre frère, on n'avait pas de nouvelles entre-temps. Pendant 4-5 jours, on n'a pas eu de nouvelles. Ensuite, ils nous ont dit « effectivement, il y a 3 corps qui ont été retrouvés, calcinés ». Donc on est en train d'identifier les corps. On est en train de faire des tests ADN pour savoir qui ils sont réellement. Et donc nous, c'était un moment de doute. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Pour moi, j'avais cette vision de mon grand frère qui était fort, qui était limite invincible. Il avait reçu 9 balles quelques temps avant et il en avait survécu, donc je me dis qu'il a peut-être survécu. Je me suis dit, il a été plus malin, il s'est enfui. Enfin, on se fait plein de films à ce moment-là. Et au bout d'une semaine, les policiers sont venus nous voir en nous disant, effectivement, un des corps qui était présent dans la voiture, c'est celui de votre frère. À ce moment-là, il y a tout qui s'arrête. Et puis, pour nous, les enfants, les proches, il y a une double douleur qui s'installe. Un, notre frère qui décède, notre frère qui est assassiné, et on pense à lui, on pleure et on n'est pas bien, etc. Et deux, on voit sa mère, et moi je pense que c'est aussi une des douleurs qui est la plus terrible pour les enfants. On voit sa mère s'éteindre, sa mère se détruire. Elle n'est pas bien, on la voit aussi s'enfoncer et aller dans le mal. Donc c'est cette double douleur qui s'installe. On ne sait pas si on a le droit de pleurer ou pas. On ne sait pas s'il faut au contraire montrer à notre mère qu'on est fort. Puis c'est un trou, c'est un vide, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Enfin, c'est surtout quand on apprend que il a pas juste été assassiné, il a été brûlé, retrouvé calciné, il restait pratiquement rien de son corps. Donc c'est juste horrible. À ce moment, on est au courant de rien. La seule chose qu'on sait, c'est que il est retrouvé assassiné avec deux de ses amis. Donc c'est la seule chose qu'on sait au début. Après, bon ben aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours. Une enquête qui a déterminé qui sont les auteurs de ces faits. Donc ces auteurs ont été arrêtés. Aujourd'hui, ils sont tous incarcérés en attendant un procès. Mais les éléments exacts, on les a pas encore. Pendant un mois, je suis pas allé à l'école, j'ai rien fait. Pendant un mois, je me suis occupé de ma famille, etc. Et pendant ce mois-là, c'est tout un tas de remises en question, tout un tas de souvenirs qui reviennent. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Est-ce qu'on n'a pas justement pas assez fait? Est-ce qu'on a trop fait? Enfin, c'est tout un tas de questions qui viennent et qu'on se pose. Et puis, à ce moment-là, je pensais pas à comment j'allais me battre. Je pensais juste à comment j'allais aider mes proches, comment on allait obtenir justice, qui a fait ça, pourquoi, comment. Et c'est toutes ces questions qui me sont venues. Je suis pas à l'aise à l'idée de dire règlement de compte. Je suis pas à l'aise aussi à l'idée de dire il y a des victimes collatérales et des victimes qui sont coupables. Non, il y a des victimes tout court. Moi, la Provence, je leur en veux encore aujourd'hui parce que dans l'article qu'ils ont écrit sur mon frère, il y a écrit un nouveau barbecue à Marseille. Ils ont qualifié cette scène de barbecue. Quand on brûle des gens à Marseille, on appelle ça un barbecue. Enfin, les journalistes se permettent d'appeler ça alors qu'ils connaissaient même pas les défunts et qu'ils connaissaient même pas les jeunes qui sont victimes de ces homicides. Donc non, moi, je suis pas pour qu'on appelle ça comme ça parce que on participe en quelque sorte à une banalisation. On oublie que derrière ça, c'est des humains. On oublie que derrière ça, il y a des familles, il y a des mamans, il y a des frères comme moi, il y a des enfants, il y a des gens qui sont brisés, qui sont endeuillés, qui sont meurtris. Et donc, on se doit de les respecter. Et pour ça, on se doit d'utiliser les bons termes. Et puis après, je me suis dit, il va falloir que, pour mon frère, que je m'occupe de mes proches, que je sois à leur côté, que je fasse en sorte que tout le monde aille voir une psy, que tout le monde aille bien, qu'on prenne soin les uns des autres mutuellement, et surtout qu'on n'oublie pas sa fille, qu'on n'oublie pas qu'il a un bébé, et par conséquent, on doit être à ses côtés. Quand mon frère est décédé, j'avais 17 ans. Et la seule chose, je pense que c'est que à un moment, je me suis un peu oublié dans tout ça, je me suis un peu oublié dans cette histoire. Et c'est vraiment longtemps après que j'ai commencé à consulter, que j'ai commencé à avoir des professionnels pour moi. Parce qu'une fois que j'ai envoyé tout le monde voir des pros, voir des psys, voir du monde, à part mon docteur, j'avais pas vu grand monde. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il faut que j'y aille aussi à un moment, que je parle aussi un peu de ce que j'ai vécu à ce moment. L'AVAD, qui est censé être le dispositif d'accompagnement des familles de victimes, nous expliquait que quand c'est sur fond de trafic de stupéfiants, c'est un peu plus compliqué, etc. Donc moi, j'ai essayé de voir des gens, j'ai essayé de voir des professionnels, mais il y a personne. Nous, dès qu'on apprend cette nouvelle, on est jeté à nous-mêmes, on est laissé à notre sort, et c'est à nous de nous débrouiller. C'est à nous. Ma mère voulait qu'on parte parce que l'appartement dans lequel on était, il y avait trop de souvenirs, parce que le quartier dans lequel on était, il y avait trop de souvenirs, donc elle voulait qu'on quitte cet endroit. Personne ne nous a proposé d'aide. Aucun bailleur social n'a dit, nous, on a un contingent fait pour les familles endeuillées ou pour les cas comme cela. Et la personne ne nous a aidés, donc nous, on a quitté Marseille, on est parti loin, on a fait cette démarche nous seuls, on a emmené notre mère à Saint-Laurent-de-Provence, on faisait l'aller-retour, on venait, on allait la voir, et personne n'est venu nous tenir la main, personne n'est venu nous dire c'est terrible ce que vous vivez, on va vous accompagner, on va vous écouter, on va vous proposer un accompagnement psychologique, personne ne l'a fait.
Justice pour les familles, pour les quartiers.
Donc mon frère est décédé le 29 décembre 2020 et moi le 28 février 2021, j'organise une marche qui part des réformés et qui va jusqu'au Vieux-Port pour dire que toutes ces violences, elles sont terribles, que toutes ces violences, elles font des victimes autres que les victimes qui sont assassinées, elles font des victimes dans les familles, dans les gens qui sont témoins de ces scènes, dans tout ça. Et donc à ce moment-là, on commence à marcher sur le Vieux-Port. En hommage à mon grand frère et ses amis, mais en hommage à tous les jeunes qui sont décédés. Et puis des mamans me rejoignent dans cette marche en me disant moi je suis la maman de ce jeune, moi j'ai perdu ce jeune, moi mon fils est mort en telle année à tel moment. Baya, Souad sont venus me voir. C'est Baya et Souad, c'est des femmes qui ont perdu des enfants et Souad elle a perdu son fils et son mari. Et donc du coup moi je leur dis il faut qu'on se mobilise parce que aujourd'hui, moi, je vois en vous ce que nous on traverse à peine maintenant. Je vois en vous la douleur que nous on a maintenant. Et par conséquent, on doit se mobiliser, on doit être ensemble. Et donc, on commence à faire des réunions une fois tous les 15 jours. On prend le temps de parler avec les familles. On médiatise notre combat. Et à un moment, on dit, là, on va créer un truc. Nous, on connaît la douleur de ces familles. Dès qu'il y a un meurtre, dès qu'il y a un mort, on y va. On va voir la maman. On va lui présenter nos condoléances. On va rester avec elle. Et puis après, je me suis dit, je veux pas que mon frère, il soit mort pour rien. Je veux pas que la mort de mon frère, elle ne serve à rien. Je veux pas qu'on l'oublie. À partir de cette mort-là, à partir de ses amis, les Reda, Nassim, qui ont été assassinés avec lui, j'ai envie que plus aucune famille ne soit pas accompagnée. L'association s'appelle Conscience. Dès qu'on a créé l'asso donc avec deux amis et une enseignante, on avait cette volonté d'agir pour les autres, de se mobiliser pour nos camarades, de défendre d'autres jeunes. Et depuis le décès de mon frère, on s'est plus tourné vers des actions sociales. On a développé l'asso au plan national. On est présent dans 35 villes de France. Et dans ces 35 villes de France, l'action principale, c'est dès qu'il y a un meurtre, on prend une psychologue, un avocat et une maman qui a déjà vécu ça. Et on va voir la famille de ce jeune qui vient de décéder. Et on propose un accompagnement psychologique, financier, moral, et on essaie de soutenir au plus proche cette famille. Et ça, avant la mort de mon frère, avant la mort de Reda, de Nassim, il n'y avait pas ça, ça n'existait pas. Et il a fallu que je vive cette douleur, que je le comprenne, que je le vive au plus profond de moi-même, que je vois mes proches sombrer, que je vois ma mère tomber, pour comprendre que il y a tout un tas de travail, il y a tout un tas de choses à mener autour de cette question. En septembre 2021, je rencontrais Emmanuel Macron parce que pendant un an, on avait mené des actions, des mobilisations. La veille de sa venue, on avait aussi organisé une manifestation pour dénoncer la hausse de la criminalité à Marseille et le manque d'accompagnement des institutions. Dès que je suis arrivé, au début, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. J'avais tout juste 17 ans, je sortais à peine du lycée, à peine un peu de ma timidité, donc c'était tout nouveau pour moi. Et donc arrivé devant le président de la République, je me suis dit c'est bon, je me suis bien préparé, je sais que je suis venu jusqu'ici, mais j'ai oublié un petit détail, c'est de préparer ce que je vais lui dire. Et donc je me suis dit non, Amine, tu ouvres ton cœur et tu parles avec ton cœur, quoi. Tu dis ce que tu as vécu et tu dis ce que tu attends, ce que les gens attendent. Et donc du coup, je me suis vraiment mis dans un rôle en disant que face au président, c'était pas juste moi qui parlais. Je voulais que à ce moment-là, ça soit les quartiers qui lui parlent. Et donc j'ai vraiment essayé à ce moment de parler pour tout le monde et de dire ce qui était important de lui rappeler.
Que notre jeunesse, que nous, les jeunes des quartiers nord, on peut s'investir. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça ne sert à rien de venir avec un plan qui vient de Paris, avec un plan qui a été fait dans un avion ou je ne sais où. Faut que ce plan, vous le construisez avec nous, les élus locaux, avec nous, les associations, avec nous, les familles de victimes, parce que on a également un témoignage à apporter parce qu'on a également
sa réponse. Elle a été très brève, hein. Il a dit deux mots, je pense, hein. Il m'a juste demandé quel âge j'avais.
17 ans.
C'est énorme.
Et moi, je
il s'est levé pour m'applaudir, mais très très fort, mais ça a été la seule réponse que j'ai eue à ce moment. Ça m'a encore renforcé dans mes positions, ça m'a encore renforcé dans le fait que c'est à nous de prendre notre destin en main, que personne ne va venir nous sauver, que ça soit le président de la République, le berger ou le prêtre ou le imam du quartier, personne ne va venir nous sauver, c'est à nous de prendre notre destin en main et personne ne va vouloir venir endosser cette responsabilité. Et donc ça, je l'ai compris face à Emmanuel Macron.
Thank you.
Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est de dire que c'est d'autant plus terrible de se dire que malgré tous les moyens qui ont été mis, le nombre de morts, il a doublé par rapport aux précédentes années, il a augmenté par rapport à l'an dernier. On est à presque deux fois plus que l'an dernier. Donc c'est terrible de se dire que même si le chef de l'État prend personnellement le dossier, que tout un gouvernement se mobilise autour de cette question, qu'on n'arrive pas à lutter, qu'on n'arrive pas à faire face à ces trafics de drogue. Donc ça fait peur. Ça montre qu'à un moment, il faut qu'on arrête avec cette politique de la répression et qu'on se mette à innover sur cette question de la drogue, sur cette question du cannabis. Il y a effectivement des guerres de territoire, il y a effectivement des problèmes liés à des concurrences, il y a aussi maintenant de plus en plus d'histoires qui sont terribles. Il y a quelque temps, il y a eu des fusillades pendant des mois, parce que dans une île en Thaïlande ou je ne sais où, il y a deux gérants de la drogue qui se sont vus, il y en a un qui a lancé un glaçon sur un autre, et c'est pour ça que pendant des mois, il y a eu des fusillades. Et c'est pour ça que pendant des mois, il y a eu des meurtres. Ici à Marseille. Les deux n'étaient pas là, ils se sont disputés en Thaïlande, mais leurs réseaux sont ici à Marseille, ils sont propriétaires des réseaux de la Paternelle, des Mécoucouliers, etc. Et ces gens-là se sont fait une guerre en tuant des gens, parce que un d'entre eux a lancé un glaçon sur un autre. Et donc ça, c'est terrible aujourd'hui. Et puis après, il y a aussi le fait que ces trafics ont pris l'ampleur. Aujourd'hui, ils se sont organisés, c'est devenu de vraies entreprises, il y a de l'argent derrière tout ça. Donc il y a de plus en plus de tensions et de violences liées à cela. Moi, je rêverais de les points de deal, on sait où ils sont. Eh ben, je rêverais de voir matin, midi et soir une voiture de flic dans ce périmètre-là. Quand un consommateur il va venir pour acheter, il va réfléchir à deux fois avant d'y aller parce qu'il va voir la police au loin. Quand une voiture elle va venir avec des jeunes armés pour tirer sur tout le monde, ils vont voir une voiture de flic, ils vont y réfléchir à deux fois. Enfin, c'est redonner la force de dissuasion de la police. La police elle a perdu sa force de dissuasion aujourd'hui, donc ça il faut qu'on la retrouve. Et il y a une action de long terme. Les enfants qui ont aujourd'hui 16 ans, 17 ans, c'est un peu trop tard peut-être pour les sortir des trafics de drogue, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, mais en tout cas ceux qui ont 5 ans, ceux qui ont 6 ans et qui n'y ont pas encore mis un pied, ceux-là on peut les sauver. Ceux-là on peut dès maintenant les accompagner, faire en sorte que ces jeunes ils grandissent avec des livres, ces jeunes ils vont à la bibliothèque, ces jeunes ils vont aller aux Alpes comme nous on le faisait, ils vont aller dans des classes vertes, dans des colonies, etc. etc. Et ça c'est important à faire aujourd'hui et maintenant. Il y a vraiment deux axes à avoir, l'urgence et le long terme. Alors aujourd'hui, mes journées, elles sont faites de quelques heures de cours et puis après j'ai à l'association ou avant d'aller en cours, c'est tout dépend des journées. Et à côté de ça, je fais du droit, je suis en deuxième année de droit. Par la suite, je veux passer le CAPA, le diplôme des avocats. Et si l'affaire de mon frère et de ses amis n'est pas encore entamé en justice, je voudrais les défendre et les représenter ses familles. Et puis au bout d'un moment, je pense que je m'engagerai un peu plus activement en politique. C'est la voie possible pour faire changer les choses. Aujourd'hui, ceux qui décident des moyens qu'il y a dans les centres sociaux, c'est les politiques. Ceux qui décident de à qui on va donner des subventions comme association pour accompagner les gens, c'est les politiques. Les politiques pourraient décider de créer un dispositif eux-mêmes d'accompagnement des familles de victimes, trouver de l'emploi aux jeunes, c'est les politiques qui font tout ça. Donc moi, je pense qu'effectivement, la réponse, elle n'est que politique. En début septembre 2023, on a déposé avec l'association un référé liberté auprès du tribunal administratif pour rappeler la responsabilité de l'État dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos quartiers. Et c'est l'association Conscience qui le porte avec une cinquantaine de familles. Aujourd'hui, pour nous, pour habitants des quartiers nord, au vu de l'actualité, au vu du nombre de morts, au vu de tout ce qui se passe, on estime que pas tous les moyens sont mis en place, pas tout est fait pour régler ce problème dans les quartiers nord, pas tout est fait pour accompagner les jeunes des quartiers populaires à sortir de la drogue, à sortir de ce problème, et que l'État ne prend pas sa responsabilité de garantir la liberté des gens. Et la liberté des gens, c'est de la liberté de vivre, la liberté de circuler dans les quartiers sans se faire tirer dessus. Et ça, c'est pas garanti par l'État. Donc l'État a failli à sa mission. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite pointer du doigt, et c'est ce qu'on souhaite rappeler à l'État, c'est cette responsabilité-là. Les gens, quand ils me voient dans les quartiers, ils m'appellent président. Maintenant, les jeunes, ils m'appellent tous président en disant « il faut que tu remplaces Macron, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Et ouais, les gens dans les quartiers, ils me voient comme un jeune qui a réussi pour eux. Et ils me voient aussi comme quelqu'un de confiance. Moi, ils ont pas de mal à venir me parler, me raconter leurs problèmes, me raconter où ça va pas, ce qu'on doit faire, me donner des conseils aussi. C'est très, très encourageant et moi, ça... Bah, c'est ce dont on a besoin en fait pour entamer tout ce genre d'action. Seul on peut rien faire, c'est d'être soutenu, d'être accompagné et ça aujourd'hui je le suis. Mon père vit toujours à Frévalon, donc moi j'y suis pratiquement tous les week-ends. Après, l'objectif effectivement pour moi, c'est après mes études de revenir à Frévalon. Parce que c'est un quartier que j'aime, c'est le quartier où je suis né, parce que malgré tout je suis fier de mon quartier, je suis fier d'y venir, parce que c'est le quartier où j'ai grandi avec mon grand frère, où j'ai des souvenirs avec lui, et parce que Frévalon c'est chez moi.
C'était Amine Kessassi, une voix pour les victimes de règlement de compte, un reportage de Clément Baudet, réalisé par Anne Depelchin. Merci bien sûr à Amine et aux bénévoles de l'association Conscience. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Sandrine Chapour et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
Favorite band is back on the road, and this fall they're playing the Hollywood Bowl. I've already purchased two seats for their show. I guess I'm an optimist. 2011, you stole my heart here, and I couldn't listen to that band for years. Till that night last summer when you reappeared, forgot how bad I wanted this. If I could see the future, I never would believe her. Falling in and out of love and falling in again. We were never any good at being friends. When Harry met Sally and you fell asleep, I closed your computer and stole the top sheet. I was strung out in Austin for nearly a week, anxiety like we were kids. Been thinking too much and it's ruined my nights, but it's hard when it isn't to let yourself slide. And my heart doesn't slow down when you kill the lights. I never learned call it quits. If I could see the future, I never would believe her. Falling in and out of love and falling in again. We were never any good at being friends. I'll go hungry and crazy and honest for you. I don't always get angry, but I'm promising to. If it's all that you want, then it's all that I can do. 'Cause I never made any sense. I'll wait for years, but I won't wait alone. And then someday you'll wait for my face on your phone. And I'll call and I'll say I think you should come home. 'Cause I'm tired of being your ex. Can I take you out to a concert 6 months from now?